Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que je suis bon ? Cette phrase du maître nous dérange quand même, elle nous dérange même beaucoup. Et en plus, elle n'a pas été dite au hasard. Bien au contraire, ce propriétaire a tout organisé pour pouvoir la dire. En effet, ordinairement, les ouvriers rentrent chez eux immédiatement après avoir reçu leur salaire. Ils n'attendent pas que tous aient reçu leurs pièces. Mais voilà que le maître demande exprès à l'intendant de commencer par les derniers, si bien que les premiers voient combien ils touchent. Autrement, les premiers n'en auraient rien su. Le maître a donc véritablement voulu tester le regard de ces hommes. Il leur fait découvrir au fin fond de leur cœur une tristesse et une agressivité. Une tristesse et une agressivité qui naissent de quoi ? De la bonté qui est exercée envers les autres. Eh bien, c'est de cela dont je voudrais parler ce matin. Je voudrais parler de cette tristesse qui est apparue dans le cœur par le fait d'être témoin d'une bonté exercée envers d'autres. Je voudrais parler de cette tristesse et je voudrais parler de son remède. La première chose, c'est, on peut se demander, mais d'où vient cette tristesse? D'où vient-elle? Elle vient d'un sentiment d'injustice. On a travaillé toute la journée et pendant les heures chaudes. Et eux, ils ont fait seulement une heure quand il faisait bon. Et voilà qu'ils sont payés autant que nous. Sentiment, c'est pas juste. Mais pourtant, y a-t-il objectivement une injustice à leur égard? En fait, le maître fait souligner que non. Un denier, une pièce d'argent, c'est le salaire normal et juste pour une journée de travail. C'est un salaire qui permet à l'ouvrier de se nourrir, de se vêtir, de prendre soin de sa famille. Ils étaient convenus d'un salaire vraiment juste pour leur peine. Et ils le reçoivent. D'où la parole du maître, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. » Alors on remarquera que cette parabole implique la notion d'une valeur objective du travail de l'homme. Que le travail de l'homme peut avoir une valeur objective. Ça ne fonctionnerait pas si on est seulement dans la logique du spéculateur. Vous voyez, c'est celui qui ne connaît de valeur que relative, en fonction de l'offre et de la demande. Mais alors, comment est apparu ce sentiment de vide? Comment est apparu ce sentiment de manque? Ce sentiment de vide et de manque est apparu dans la relation à l'autre. Il est apparu dans la comparaison. Pour prendre une autre comparaison, c'est l'enfant qui reçoit une part de gâteau. C'est la part de gâteau qu'il avait demandée, celle qu'il avait choisie, celle qui correspond à sa faim. Il l'a vraiment reçu, ce qu'il a demandé et ce dont il a besoin. Or voilà qu'il en regarde un autre à côté de lui, et il s'aperçoit que l'autre a la même part que lui. Et tout d'un coup, sa propre part, qui le réjouissait avant, eh bien, ne semble plus si bonne. Elle lui semble un peu trop petite, moins désirable. Et pourtant, son besoin physiologique de manger est le même, qu'on donne à manger à l'autre n'y change rien. Mais affectivement, la faim n'est plus la même. Il y a comme une illusion d'optique qui se produit. Dans la comparaison, ma part me semble trop petite. Je voudrais avoir deux fois plus faim pour avoir une part deux fois plus grosse. Ah oui, mais physiologiquement, ça n'a pas changé, c'est pas le cas. Et du coup, dans cette matière de joie ou de tristesse par rapport à ce que je reçois, on va voir deux choses. Il y a une notion à purifier, et puis il y a une notion à découvrir. À purifier, comment ça ? À purifier, c'est lorsque je ne conçois l'autre que comme un rival. Je ne peux pas me sentir grand, beau, aimé, si l'autre n'est pas plus petit, moins beau que moi, moins apprécié que moi. Ce qu'il reçoit finalement est perçu comme quelque chose dont on me prive, quelque chose que l'on n'a pas voulu me donner. Voilà, ça c'est quelque chose à purifier. En revanche, il y a quelque chose à découvrir, vraiment. C'est en fait que ma joie ne se cantonne pas à la satisfaction de mon besoin. Je ne me satisfais pas de la reconnaissance objective et juste de ce que je suis, de ce que je fais. Ma joie est aussi influencée par mon positionnement vis-à-vis des autres. La joie que j'éprouve est influencée par mon positionnement vis-à-vis des autres. Et cela n'est pas un mal. Le fait que je sois, que ma joie soit influencée par le positionnement des autres n'est pas un mal. Pourquoi ? Parce que je suis un être qui est fait pour la communion. Je suis une personne créée à l'image de Dieu qui est relation, relation du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors il n'est pas étonnant que le rapport aux autres, que la relation soit intégrée, soit une partie intégrante dans le phénomène de joie ou de tristesse que je peux ressentir. Or, il y a un fait objectif. Les premiers ouvriers, ils l'ont perçu ça, mais ils ne savent pas l'exprimer. C'est que les derniers, en recevant une pièce d'argent pour seulement une heure de travail, ont fait l'expérience d'une bonté gratuite à leur égard. Les derniers ont été bénéficiaires d'une bonté gratuite à leur égard. Et les premiers, c'est vrai, ils ne l'ont pas vu pour eux. Les derniers ont été bénéficiaires d'une bonté gratuite, elle n'était pas méritée, mais ils l'ont reçue. Eh bien, les premiers n'ont pas fait cette expérience. Et du coup, dans leur cœur, il y a une inquiétude, il y a une question au moins. Et moi, est-ce que je suis digne d'une bonté gratuite ? Est-ce que je suis digne d'une bonté gratuite, moi ? L'autre, je vois qu'on le lui a accordé, mais est-ce qu'on l'accorderait à moi ? Si moi j'étais arrivé en dernière heure, est-ce que l'on aurait jugé que, ben oui, toi aussi tu peux bénéficier d'une bonté gratuite ? Alors face à cette inquiétude, il y a, on pourrait dire, une fausse solution et une vraie solution. Alors, c'est quoi la fausse solution ? La fausse solution, c'est pour combler ce vide immédiatement. Il faut le combler immédiatement. Alors, on va être cajolé. On va nous dire, mais oui, tu es aimable. Mais oui, on peut exercer une bonté gratuite à ton égard. Tiens, prends ce cadeau. Et alors, à chaque inquiétude, on va me donner un cadeau pour, ah, ça y est, oui, moi aussi, je suis digne de quelque chose de gratuit à mon égard. Mais ça ressemble un peu à quelqu'un qui aurait faim et qui a sauté un repas, enfin qui aurait faim parce qu'il a sauté un repas, dirons-nous, et à qui on donne un sucre. Ok, ça va le combler un quart d'heure, mais il va avoir faim à nouveau tout de suite après. La personne que l'on cajole sera rassurée sur le coup, mais elle sera de nouveau inquiète la prochaine fois qu'elle sera témoin d'une bonté gratuite envers un autre. Du coup, on me rassure, on me cajole, ça va un moment. Puis dès que je revois la même chose, quelqu'un est bénéficiaire d'une bonté gratuite, je suis à nouveau inquiet. Et ça ne s'arrête jamais. Alors quelle peut être une vraie solution pour que le cœur ne soit plus inquiet ? C'est une solution qui doit venir toucher ma relation aux autres. C'est une solution qui doit toucher ma capacité d'entrer en communion à l'autre. C'est alors que mon regard pourra être réjoui par le bien qui survient au prochain. Vous savez, il s'agit d'entrer dans la compréhension de l'Église comme corps. Le bien fait à l'un des membres profite à tout le corps. Tous les membres en sont fortifiés et réjouis. Si c'est un corps, c'est une même vie. La bonté dont toi tu bénéficies, si nous sommes les membres d'un même corps, eh bien, le bien qui t'est fait rejaillit. J'en reçois un écho. Et comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que notre regard, comment est-ce que notre relation à l'autre peut être changée ? J'espère que vous êtes toujours vivants, parce que je commence à être un peu long. Alors je commence à voir les têtes qui tombent, on est rattrapé par la fatigue de la semaine. Quel est le moyen qui touche notre relation et qui peut nous amener du coup à sortir de la fausse solution ? Eh bien, dans les chapitres 18 à 20 de l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus invite l'homme à faire ce que Dieu fait, ou à faire ce que lui, Jésus, fait lui-même. Pardonner parce que Dieu pardonne, tout laisser pour faire la volonté du Père, ou ici, le maître de la parabole veut amener les ouvriers à partager son regard sur les autres. La pointe, c'est que Dieu nous appelle à faire avec lui et en lui ce qu'il fait, c'est-à-dire à devenir des auteurs de bonté gratuite, on pourrait dire des flammes de bonté. Je voudrais prendre une image. Lorsqu'on a froid, vous avez deux solutions. Soit vous allez essayer de trouver un radiateur et vous allez vous y coller. Mais dès que vous vous éloignez du radiateur, ben vous avez froid à nouveau. Soit, il y a une autre solution, ce serait de devenir soi-même une flamme. Parce que si je suis la flamme, je suis partout avec la chaleur. La chaleur est avec moi toujours. Eh bien, le seul remède véritable pour ne pas se sentir glacé par la flamme de bonté transmise à un autre, c'est de devenir soi-même flamme de bonté qui se transmet. Voir la vie grandir à partir de la bonté que je partage, que je donne gratuitement, là est la joie qui comble le cœur profondément. Le fait de faire grandir une vie apaise l'interrogation qui peut tourner en rond du « suis-je aimable ?». Le fait de faire grandir une vie, de faire du bien, d'être au service de la vie de l'autre, apaise cette interrogation qui peut tourner en rond du « suis-je aimable ?». En fait, on va passer de la logique, de ce que j'appellerais la logique du gâteau, à la logique de la flamme. Avec un gâteau, plus il y a de convives, plus les parts sont petites. Et donc je suis inquiet à chaque nouvelle personne qui s'approche de la table. Avec une flamme, il n'en va pas de même. Lorsqu'elle se partage, la flamme non seulement ne diminue pas, mais au contraire, la clarté augmente et la chaleur aussi. Une flamme, vous partagez la flamme de cierge en cierge, la première flamme qui a donné la lumière n'a pas diminué en intensité, mais au contraire, partagez, la lumière et la chaleur augmentent. Le prochain devient donc une chance de clarté supplémentaire et non plus celui qui fait diminuer la taille des parts. Alors, il y a peut-être encore une inquiétude. Comment être une flamme de bonté? Lorsque l'on est grand, lorsqu'on est doué, c'est assez simple de prendre des initiatives de bonté gratuite, de faire grandir une vie. Il y a des services que l'on peut rendre. Et l'on vous proposera à la fin de la messe plein de services pour la vie paroissiale, rassurez-vous. Mais quand on a 5-6 ans, par exemple, est-ce que on peut aussi être une flamme de bonté? Lorsque on est malade, est-ce qu'on peut être aussi une flamme de bonté? Il y a une flamme toute particulière qui est en notre pouvoir, qui est la flamme du merci, la flamme de la gratitude. Vous n'imaginez pas combien on nourrit une âme en lui disant un vrai merci, en faisant monter de tout notre cœur, à nos yeux, à nos lèvres, ce merci. Et du coup, là, je m'adresse tout particulièrement aux enfants, aux servantes de l'Assemblée qui sont là, présentes au premier rang, et je me réjouis de les voir dans ce service. Je m'adresse aux servants d'hôtel qui sont ici dans les stalles et aux autres enfants. Utilisez, devenez ces flammes de bonté par votre gratitude, par votre merci. Vous ferez beaucoup de bien dans les cœurs. Seigneur Jésus, l'œil de mon cœur est peut-être encore mauvais. J'ai du mal à ne pas voir mon frère comme un rival dont le bonheur m'attriste. Toi qui donnes le feu de l'Esprit Saint, l'Esprit de communion, appelle-moi, appelle-moi encore. Avec toi et en toi, je veux devenir flamme de bonté. Appelle-moi, appelle-moi encore. Avec toi et en toi, je veux devenir flamme de bonté. Embrase-moi de ta charité. Amen.